je venais d'écrire à Gilberte une lettre où je laissais tonner ma fureur, non sans pourtant jeter la bouée de quelques mots placés comme au hasard, et où mon ami pourrait accrocher une réconciliation. Un instant après, le vent ayant tourné, c'étaient des phrases tendres que je lui adressais, pour la douceur de certaines expressions désolées, de telles jamais plus, si attendrissant pour ceux qui les emploient, si fastidieux pour celle qui les lira, soit qu'elle les croie mensongers et traduise jamais plus par « ce soir même si vous voulez bien de moi », ou qu'elle les croit vraies et lui annonçant alors une de ces séparations définitives qui nous sont si parfaitement égales dans la vie quand il s'agit d'êtres dont nous ne sommes pas épris. Mais puisque nous sommes incapables, tandis que nous aimons, d'agir en digne prédécesseur de l'être prochain que nous serons et qui n'aimera plus, comment pourrions-nous tout à fait imaginer l'état d'esprit d'une femme à qui, même si nous savions que nous lui sommes indifférents, nous avons perpétuellement fait tenir dans nos rêveries pour nous bercer d'un beau songe ou nous consoler d'un gros chagrin, les mêmes propos que si elle nous aimait. Devant les pensées, les actions d'une femme que nous aimons, nous sommes aussi désorientés que le pouvaient être devant les phénomènes de la nature, les premiers physiciens, avant que la science fût constituée et eût mis un peu de lumière dans l'inconnu. Ou pis encore comme un être pour l'esprit de qui le principe de causalité existerait à peine, un être qui ne serait pas capable d'établir un lien entre un phénomène et un autre, et devant qui le spectacle du monde serait incertain comme un rêve. Certes, je m'efforçais de sortir de cette incohérence, de trouver des causes, je tâchais même d'être objectif, et pour cela de bien tenir compte de la disproportion qui existait entre l'importance qu'avait pour moi Gilberte et celle non seulement que j'avais pour elle, mais qu'elle-même avait pour les autres êtres que moi, disproportion qui, si je l'eusse omise, eût risqué de me faire prendre une simple amabilité de mon ami pour un aveu passionné, une démarche grotesque et avilissante de ma part pour le simple et gracieux mouvement qui vous dirige vers de beaux yeux. Mais je craignais aussi de tomber dans l'excès contraire, où j'aurais vu, dans l'arrivée inexacte de Gilberte à un rendez-vous, un mouvement de mauvaise humeur, une hostilité irrémédiable. Je tâchais de trouver entre ces deux optiques également déformantes celle qui me donnerait la vision juste des choses. Les calculs qu'il me fallait faire pour cela me distrayaient un peu de ma souffrance. Et soit par obéissance à la réponse des nombres, soit que je leur eusse fait dire ce que je désirais, je me décidai le lendemain à aller chez les Swann. Heureux, mais de la même façon que ceux qui s'étant tourmentés longtemps à cause d'un voyage qu'ils ne voulaient pas faire, ne vont pas plus loin que la gare et rentrent chez eux défaire leur mal. Et comme pendant qu'on hésite, la seule idée d'une résolution possible, à moins d'avoir rendu cette idée inerte en décidant qu'on ne prendra pas la résolution, développe comme une graine vivace les linéaments, tout le détail des émotions qui naîtraient de l'acte exécuté, je me dis que j'avais été bien absurde de me faire, en projetant de ne plus voir Gilberte, autant de mal que si j'eusse dû réaliser ce projet, et que puisque au contraire c'était pour finir par retourner chez elle, j'aurais pu faire l'économie de tant de velléités et d'acceptations douloureuses. Mais cette reprise des relations d'amitié ne dura que le temps d'aller jusqu'à chez les Swann, non pas parce que leur maître d'hôtel, lequel m'aimait beaucoup, me dit que Gilberte était sortie, je sus en effet dès le soir même que c'était vrai, par des gens qui l'avaient rencontré, mais à cause de la façon dont il me le dit. « Monsieur, mademoiselle est sortie. Je peux affirmer à monsieur que je ne mens pas. Si monsieur veut se renseigner, je peux faire venir la femme de chambre. Monsieur pense bien que je ferai tout ce que je pourrai pour lui faire plaisir, et que si mademoiselle était là, je mènerais tout de suite monsieur auprès d'elle. » Ces paroles, de la sorte qui est la seule importante, involontaire, nous donnant la radiographie au moins sommaire de la réalité insoupçonnable que cacherait un discours étudié, prouvaient que dans l'entourage de Gilberte on avait l'impression que je lui étais importun. Aussi, à peine le maître d'hôtel les eut-il prononcées, qu'elles engendrèrent chez moi de la haine, à laquelle je préférais donner comme objet, au lieu de Gilberte, le maître d'hôtel. Il concentra sur lui tous les sentiments de colère que j'avais pu avoir pour mon ami, débarrassé d'eux grâce à ses paroles. Mon amour subsista seul, mais elle m'avait montré en même temps que je devais, pendant quelque temps, ne pas chercher à voir Gilberte. Elle allait certainement m'écrire pour s'excuser. Malgré cela, je ne retournerai pas tout de suite la voir, afin de lui prouver que je pouvais vivre sans elle. D'ailleurs, une fois que j'aurai reçu sa lettre, fréquenter Gilberte serait une chose dont je pourrais plus aisément me priver pendant quelque temps, parce que je serai sûr de la retrouver dès que je le voudrais. Ce qu'il me fallait pour supporter moins tristement l'absence volontaire, c'était sentir mon cœur débarrassé de la terrible incertitude de savoir si nous n'étions pas brouillés pour toujours, si elle n'était pas fiancée, partie, enlevée. Les jours qui suivirent ressemblèrent à ceux de cette ancienne semaine du jour de l'an que j'avais dû passer sans Gilberte. Mais cette semaine-là finie, jadis, d'une part mon amie reviendrait aux Champs-Élysées, je la reverrais comme auparavant, j'en étais sûr, et d'autre part je savais avec non moins de certitude que tant que dureraient les vacances du jour de l'an, ce n'était pas la peine d'aller aux Champs-Élysées. De sorte que durant cette triste semaine déjà lointaine, j'avais supporté ma tristesse avec calme, parce qu'elle n'était mêlée ni de crainte ni d'espérance. Maintenant, au contraire, c'était ce dernier sentiment qui, presque autant que la crainte, rendait ma souffrance intolérable. N'ayant pas eu de lettre de Gilberte le soir même, j'avais fait la part de sa négligence, de ses occupations, je ne doutais pas d'en trouver une d'elles dans le courrier du matin. Il fut attendu par moi chaque jour, avec des palpitations de cœur auxquelles succédait un état d'abattement, quand je n'y trouvais que des lettres de personnes qui n'étaient pas Gilberte, ou bien rien. Ce qui n'était pas pire, les preuves d'amitié d'une autre me rendant plus cruelle, celle de son indifférence. Je me remettais à espérer pour le courrier de l'après-midi. Même entre les heures des levées des lettres, je n'osais pas sortir, car elle eût pu faire porter la sienne. Puis le moment finissait par arriver où ni facteur ni valet de pied des soins ne pouvant plus venir, il fallait remettre au lendemain matin l'espoir d'être rassuré, et ainsi, parce que je croyais que ma souffrance ne durerait pas, j'étais obligé, pour ainsi dire, de la renouveler sans cesse. Le chagrin était peut-être le même, mais au lieu de ne faire comme autrefois que prolonger uniformément une émotion initiale, recommencer plusieurs fois par jour en débutant par une émotion si fréquemment renouvelée qu'elle finissait, elle, état tout physique si momentané, par se stabiliser, si bien que les troubles causés par l'attente ayant à peine le temps de se calmer avant qu'une nouvelle raison d'attendre survînt, il n'y avait plus une seule minute par jour où je ne fusse dans cette anxiété qu'il est pourtant si difficile de supporter pendant une heure. Ainsi ma souffrance était infiniment plus cruelle qu'au temps de cet ancien 1er janvier, parce que cette fois il y avait en moi, au lieu de l'acceptation pure et simple de cette souffrance, l'espoir à chaque instant de la voir cesser. À cette acceptation, je finis pourtant par arriver. Alors je compris qu'elle devait être définitive et je renonçai pour toujours à Gilberte, dans l'intérêt même de mon amour et parce que je souhaitais avant tout qu'elle ne conservât pas de moi un souvenir dédaigneux. Même à partir de ce moment-là, et pour qu'elle ne pût former la supposition d'une sorte de dépit amoureux de ma part, quand dans la suite elle me fixa des rendez-vous, je les acceptais souvent, et au dernier moment je lui écrivais que je ne pouvais pas venir, mais en protestant que j'en étais désolé, comme j'aurais fait avec quelqu'un que je n'aurais pas désiré voir. Ces expressions de regret qu'on réserve d'ordinaire aux indifférents persuaderait mieux Gilberte de mon indifférence, me semblait-il, que ne ferait le ton d'indifférence qu'on affecte seulement envers celle qu'on aime. Quand mieux qu'avec des paroles, par des actions indéfiniment répétées, je lui aurais prouvé que je n'avais pas de goût à la voir, peut-être en retrouverait-elle pour moi. Hélas, ce serait en vain. Chercher en ne la voyant plus à ranimer en elle ce goût de me voir, c'était la perdre pour toujours. D'abord parce que quand il commencerait à renaître, si je voulais qu'il durât, il ne faudrait pas y céder tout de suite. D'ailleurs, les heures les plus cruelles seraient passées. C'était en ce moment qu'elle m'était indispensable, et j'aurais voulu pouvoir l'avertir que bientôt elle ne calmerait en me revoyant qu'une douleur tellement diminuée qu'elle ne serait plus, comme elle eût été encore en ce moment même, et pour y mettre fin, un motif de capitulation, de se réconcilier, de se revoir. Et enfin, plus tard, quand je pourrais enfin avouer sans péril à Gilberte, tant son goût pour moi aurait repris de force le mien pour elle, celui-ci n'aurait pu résister à une si longue absence et n'existerait plus. Gilberte me serait devenue indifférente. Je le savais, mais je ne pouvais pas le lui dire. Elle aurait cru que si je prétendais que je cesserais de l'aimer en restant trop longtemps sans la voir, c'était à seule fin qu'elle me dit de revenir vite auprès d'elle. En attendant, ce qui me rendait plus aisé de me condamner à cette séparation, c'est que, afin qu'elle se rendît bien compte que, malgré mes affirmations contraires, c'était ma volonté et non pas un empêchement, non mon état de santé, qui me privait de la voir. Toutes les fois où je savais d'avance que Gilberte ne serait pas chez ses parents, devait sortir avec une amie et ne rentrerait pas dîner, j'allais voir Madame Swann, laquelle était redevenue pour moi ce qu'elle était au temps où je voyais si difficilement sa fille, et où les jours où celle-ci ne venait pas aux Champs-Élysées, j'allais me promener avenue des Acacias. De cette façon, j'entendrais parler de Gilberte, et j'étais sûr qu'elle entendrait ensuite parler de moi, et d'une façon qui lui montrerait que je ne tenais pas à elle. Et je trouvais, comme tous ceux qui souffrent, que ma triste situation aurait pu être pire. Car ayant libre entrée dans la demeure où habitait Gilberte, je me disais toujours, bien que décidé à ne pas user de cette faculté, que si jamais ma douleur était trop vive, je pourrais l'avoir cessée. Je n'étais malheureux qu'au jour le jour, et c'est trop dire encore. Combien de fois par heure, mais maintenant sans l'anxieuse attente qui m'avait étreint les premières semaines après notre brouille, avant d'être retourné chez les Swann, ne me récitais-je pas la lettre que Gilberte m'enverrait bien un jour, m'apporterait peut-être elle-même. La constante vision de ce bonheur imaginaire m'aidait à supporter la destruction du bonheur réel. Pour les femmes qui ne nous aiment pas, comme pour les disparus, savoir qu'on n'a plus rien à espérer n'empêche pas de continuer à attendre. On vit aux aguets, aux écoutes. Des mères dont le fils est parti en mer pour une exploration dangereuse se figurent à toute minute, et alors que la certitude qu'il a péri est acquise depuis longtemps, qu'il va entrer, miraculeusement sauvé et bien portant. Et cette attente, selon la force du souvenir et la résistance des organes, ou bien les aide à traverser les années au bout desquelles elles supporteront que leur fils ne soit plus, d'oublier peu à peu et de survivre, ou bien les fait mourir. D'autre part, mon chagrin a été un peu consolé par l'idée qu'il profitait à mon amour. Chaque visite que je faisais à Madame Swann, sans voir Gilberte, m'était cruelle, mais je sentais qu'elle améliorait d'autant l'idée que Gilberte avait de moi. D'ailleurs, si je m'arrangeais toujours avant d'aller chez Madame Swann, à être certain de l'absence de sa fille, cela tenait peut-être autant qu'à ma résolution d'être brouillé avec elle, à cet espoir de réconciliation qui se superposait à ma volonté de renoncement. Bien peu sont absolus, au moins de façon continue, dans cette âme humaine dont une des lois, fortifiée par les afflux inopinés de souvenirs différents, est l'intermittence. Et me masquer ce qu'elle avait de trop cruel. Cet espoir, je savais bien ce qu'il avait de chimérique. J'étais comme un pauvre qui mêle moins de larmes à son pain sec s'il se dit que tout à l'heure peut-être, un étranger va lui laisser toute sa fortune. Nous sommes tous obligés, pour rendre la réalité supportable, d'entretenir en nous quelques petites folies. Or, mon espérance restait plus intacte, tout en même temps que la séparation s'effectuait mieux, si je ne rencontrais pas Gilberte. Si je m'étais trouvé face à face avec elle chez sa mère, nous aurions peut-être échangé des paroles irréparables, qui eussent rendu définitive notre brouille, tué mon espérance, et d'autre part, en créant une anxiété nouvelle, réveiller mon amour et rendu plus difficile ma résignation. Depuis bien longtemps, et fort avant ma brouille avec sa fille, Madame Swann m'avait dit « C'est très bien de venir voir Gilberte, mais j'aimerais aussi que vous veniez quelquefois pour moi, pas à mon chou-fleuri, où vous vous ennuieriez parce que j'ai trop de monde, mais les autres jours où vous me trouverez toujours un peu tard. » J'avais donc l'air, en allant la voir, de n'obéir que longtemps après à un désir anciennement exprimé par elle, et très tard, déjà dans la nuit, presque au moment où mes parents se mettaient à table, je partais faire à Madame Swann une visite pendant laquelle je savais que je ne verrais pas Gilberte et où pourtant je ne penserais qu'à elle. Dans ce quartier considéré alors comme éloigné d'un Paris plus sombre qu'aujourd'hui et qui même dans le centre n'avait pas d'électricité sur la voie publique et bien peu dans les maisons, les lampes d'un salon situé au rez-de-chaussée ou à un entresol très bas, tel qu'était celui de ses appartements où recevait habituellement Madame Swann, suffisait à illuminer la rue et à faire lever les yeux aux passants qui rattachaient à leur clarté, comme à sa cause apparente et voilée, la présence devant la porte de quelques coupés bien attelés. Le passant croyait, et non sans un certain émoi, à une modification survenue dans cette cause mystérieuse quand il voyait l'un de ses coupés se mettre en mouvement. Mais c'était seulement un cocher qui, craignant que ces bêtes prissent froid, leur faisait faire de temps à autre des allées et venues, d'autant plus impressionnantes que les roues caoutchoutées donnaient aux pas des chevaux un fond de silence sur lequel ils se détachaient plus distincts et plus explicites. Le jardin d'hiver que dans ces années-là le passant apercevait d'ordinaire, quelle que fût la rue, si l'appartement n'était pas à un niveau trop élevé au-dessus du trottoir, ne se voit plus que dans les héliogravures des livres d'étrennes de P.J. Stahl, ou en contraste avec les rares ornements floraux des salons Louis XVI d'aujourd'hui, une rose ou un iris du Japon dans un vase de cristal à long col qui ne pourrait pas contenir une fleur de plus, il semble, à cause de la profusion des plantes d'appartement qu'on avait alors et du manque absolu de stylisation dans leur arrangement, avoir dû, chez les maîtresses de maison, répondre plutôt à quelques vivantes et délicieuses passions pour la botanique qu'à un froid souci de morte décoration. Il faisait penser, en plus grand dans les hôtels d'alors, à ces serres minuscules et portatives posées au matin du 1er janvier sous la lampe allumée, les enfants n'ayant pas eu la patience d'attendre qu'il fît jour, parmi les autres cadeaux du jour de l'an, mais le plus beau d'entre eux, consolant avec les plantes qu'on va pouvoir cultiver, de la nudité de l'hiver. Plus encore qu'à ces serres-là elles-mêmes, ces jardins d'hiver ressemblaient à celles qu'on voyait tout auprès d'elles, figurées dans un beau livre, autre cadeau du jour de l'an, et qui, bien qu'elle fût donnée non aux enfants, mais à Mademoiselle Lily, l'héroïne de l'ouvrage, les enchantait, à tel point que, devenu maintenant presque vieillard, il se demandait si, dans ces années fortunées, l'hiver n'était pas la plus belle des saisons. Enfin, au fond de ce jardin d'hiver, à travers les arborescences d'espèces variées qui de la rue faisaient ressembler la fenêtre éclairée au vitrage de ces serres d'enfants, dessinées ou réelles, le passant, se hissant sur ses pointes, apercevait généralement un homme en redingote, un gardénia ou un œillet à la boutonnière, debout devant une femme assise, tous deux vagues, comme deux intailles dans une topaze, au fond de l'atmosphère du salon, ambrée par le samovar, importation récente alors, de vapeur qui s'en échappe peut-être encore aujourd'hui, mais qu'à cause de l'habitude, personne ne voit plus. Madame Swann tenait beaucoup à ce thé. Elle croyait montrer de l'originalité et dégager du charme en disant à un homme « Vous me trouverez tous les jours un peu tard, venez prendre le thé. » De sorte qu'elle accompagnait d'un sourire fin et doux ces mots prononcés par elle avec un accent anglais momentané et desquels son interlocuteur prenait bonne note en saluant d'un air grave comme s'ils avaient été quelque chose d'important et de singulier, qui commanda la déférence et exigea de l'attention. Il y avait une autre raison que celle donnée plus haut, et pour laquelle les fleurs n'avaient pas qu'un caractère d'ornement dans le salon de Madame Swann, et cette raison-là ne tenait pas à l'époque, mais en partie à l'existence qu'avait menée jadis Odette. Une grande cocotte comme elle l'avait été, vit beaucoup pour ses amants, c'est-à-dire chez elle, ce qui peut la conduire à vivre pour elle. Les choses que chez une honnête femme on voit, et qui certes peuvent lui paraître à elle aussi avoir de l'importance, sont celles en tout cas qui pour la cocotte en ont le plus. Le point culminant de sa journée est celui non pas où elle s'habille pour le monde, mais où elle se déshabille pour un homme. Il lui faut être aussi élégante en robe de chambre, en chemise de nuit, qu'en toilette de ville. D'autres femmes montrent leurs bijoux, elle vit dans l'intimité de ses perles. Ce genre d'existence impose l'obligation et finit par donner le goût d'un luxe secret, c'est-à-dire bien près d'être désintéressé. Madame Swann l'étendait aux fleurs. Il y avait toujours près de son fauteuil une immense coupe de cristal remplie entièrement de violettes de Parme ou de marguerites effeuillées dans l'eau, et qui semblait témoigner aux yeux de l'arrivant de quelque occupation préférée et interrompue, comme eût été la tasse de thé que Madame Swann eût bu seule pour son plaisir. D'une occupation plus intime même et plus mystérieuse, si bien qu'on avait envie de s'excuser en voyant les fleurs étalées là, comme on l'eût fait de regarder le titre du volume encore ouvert qui eût révélé la lecture récente, Donc peut-être la pensée actuelle d'Odette. Et plus que le livre « Les fleurs vivaient », on était gêné, si on entrait faire une visite à Madame Swann, de s'apercevoir qu'elle n'était pas seule, ou si on rentrait avec elle, de ne pas trouver le salon vide, tant y tenait une place énigmatique et se rapportant à des heures de la vie de la maîtresse de maison qu'on ne connaissait pas, ces fleurs qui n'avaient pas été préparées pour les visiteurs d'Odette, mais comme oubliées là par elle, avait eu et aurait encore avec elle des entretiens particuliers qu'on avait peur de déranger, et dont on essayait en vain de lire le secret, en fixant des yeux la couleur délavée liquide mauvais dissolu des violettes de Parme. Dès la fin d'octobre, Odette rentrait le plus régulièrement qu'elle pouvait pour le thé, qu'on appelait encore dans ce temps-là le 5 o'clock tea, ayant entendu dire et aimant à répéter que si Madame Verdurin s'était fait un salon, c'était parce qu'on était toujours sûr de pouvoir la rencontrer chez elle à la même heure. Elle s'imaginait elle-même en avoir un, du même genre, mais plus libre. Senza rigore, aimait-elle à dire. Elle se voyait ainsi comme une espèce de lespinasse et croyait avoir fondé un salon rival en enlevant à la du devant du petit groupe ses hommes les plus agréables, en particulier Swann, qui l'avait suivi dans sa sécession et sa retraite, selon une version qu'on comprend qu'elle eût réussi à accréditer auprès de nouveaux venus, ignorants du passé, mais non auprès d'elle-même. Mais certains rôles favoris sont pour nous joués tant de fois devant le monde et ressassés en nous-mêmes, que nous nous référons plus aisément à leur témoignage fictif qu'à celui d'une réalité presque complètement oubliée. Les jours où Madame Swann n'était pas sortie du tout, on la trouvait dans une robe de chambre de crêpe de Chine, blanche comme une première neige, parfois aussi dans un de ces longs tuyautages de mousseline de soie qui ne semblent qu'une jonchée de pétales roses et blancs et qu'on trouverait aujourd'hui peu appropriés à l'hiver et bien à tort. Car ces étoffes légères et ces couleurs tendres données à la femme dans la grande chaleur des salons d'alors fermés de portières et desquels ce que les romanciers mondains de l'époque trouvaient à dire de plus élégant, c'est qu'ils étaient douillettement capitonnés. Le même air frileux qu'aux roses qui pouvait y rester à côté d'elles malgré l'hiver dans l'incarnat de leur nudité comme au printemps. À cause de cet étouffement des sons par les tapis et de sa retraite dans des enfoncements, la maîtresse de la maison, n'étant pas avertie de votre entrée comme aujourd'hui, continuait à lire pendant que vous étiez déjà presque devant elle. Ce qui ajoutait encore à cette impression de romanesque, à ce charme d'une sorte de secret surpris que nous retrouvons aujourd'hui dans le souvenir de ces robes déjà démodées alors, que Madame Swann était peut-être la seule à ne pas avoir encore abandonné, et qui nous donne l'idée que la femme qui les portait devait être une héroïne de roman, parce que nous, pour la plupart, ne les avons guère vues que dans certains romans d'Henri Gréville. Odette avait maintenant dans son salon, au commencement de l'hiver, des chrysanthèmes énormes et d'une variété de couleurs comme Swann jadis n'eût pu en voir chez elle. Mon admiration pour eux, quand j'allais faire à Madame Swann une de ces tristes visites, où lui ayant, de par mon chagrin, retrouvé toute sa mystérieuse poésie de mère de cette Gilberte, à qui elle dirait le lendemain « Ton ami m'a fait une visite », venait sans doute de ce que rose pâle comme la soie Louis XIV de ses fauteuils, blanc de neige comme sa robe de chambre en crêpe de Chine, ou d'un rouge métallique comme son samovar, il superposait à celle du salon une décoration supplémentaire, d'un coloris aussi riche, aussi raffiné, mais vivante, et qui ne durerait que quelques jours. Mais j'étais touché, moins parce que ces chrysanthèmes avaient d'éphémères que de relativement durables par rapport à ces tons aussi roses et aussi cuivrés que le soleil couché exalte si somptueusement dans la brume des fins d'après-midi de novembre, et qu'après les avoir aperçus, avant que j'entrasse chez Madame Swann, s'éteignant dans le ciel, je retrouvais prolongé, transposé, dans la palette enflammée des fleurs, comme des feux arrachés par un grand coloriste à l'instabilité de l'atmosphère et du soleil, afin qu'il vînt s'orner une demeure humaine, il m'invitait, ces chrysanthèmes, et malgré toute ma tristesse, à goûter avidement pendant cette heure du thé les plaisirs si courts de novembre, dont il faisait flamber près de moi la splendeur intime et mystérieuse. Hélas, ce n'était pas dans les conversations que j'entendais que je pouvais l'atteindre. Elle lui ressemblait bien peu. Même avec Madame Cottard, et quoique l'heure fût avancée, Madame Swann se faisait caressante pour dire « Mais non, il n'est pas tard, ne regardez pas la pendule, ce n'est pas l'heure, elle ne va pas. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de si pressé à faire ?» Et elle offrait une tartelette de plus à la femme du professeur, qui gardait son porte-carte à la main. « On ne peut pas s'en aller de cette maison, » disait Madame Bontemps à Madame Swann, tandis que Madame Cottard, dans sa surprise d'entendre exprimer sa propre impression, s'écriait « C'est ce que je me dis toujours, avec ma petite jugeote dans mon fort intérieur. » Approuvé par des messieurs du jockey qui s'étaient confondus en salut, et comme comblé par tant d'honneur quand Madame Swann les avait présentés à cette petite bourgeoise peu aimable, qui restait devant les brillants amis d'Odette sur la réserve, sinon sur ce qu'elle appelait la défensive, car elle employait toujours un langage noble pour les choses les plus simples. On ne dirait pas « Voilà trois mercredis que vous me faites faux bon, » disait Madame Swann à Madame Cottard. « C'est vrai, Odette, il y a des siècles, des éternités que je ne vous ai vus. Vous voyez que je plaide coupable, mais il faut vous dire, » ajoutait-elle d'un air pudibond et vague, car quoique femme de médecin, elle n'aurait pas osé parler sans périphrase de rhumatisme ou de colique néphrétique, que j'ai eu bien des petites misères. Chacun a les siennes. Et puis j'ai eu une crise dans ma domesticité mâle. Sans être plus qu'une autre très imbue de mon autorité, j'ai dû, pour faire un exemple, renvoyer mon Vatel, qui, je crois, cherchait d'ailleurs une place plus lucrative. Mais son départ a failli entraîner la démission de tout le ministère. Ma femme de chambre ne voulait pas rester non plus, il y a eu des scènes homériques. Malgré tout, j'ai tenu ferme le gouvernail, et c'est une véritable leçon de choses qui n'aura pas été perdue pour moi. Je vous ennuie avec ces histoires de serviteurs, mais vous savez comme moi quel tracas c'est d'être obligé de procéder à des remaniements dans son personnel. « Et nous ne verrons pas votre délicieuse fille ?» demandait-elle. Non, ma délicieuse fille dîne chez une amie, répondait Madame Swann, et elle ajoutait en se tournant vers moi, je crois qu'elle vous a écrit pour que vous veniez la voir demain. Et nos babies? Demandait-elle à la femme du professeur. Je respirai largement. Ces mots de Madame Swann, qui me prouvaient que je pourrais voir Gilberte quand je voudrais, me faisaient justement le bien que j'étais venu chercher et qui me rendaient à cette époque-là les visites à Madame Swann si nécessaires. Non, je lui écrirai un mot ce soir. Du reste, Gilberte et moi, nous ne pouvons plus nous voir, ajoutai-je, ayant l'air d'attribuer notre séparation à une cause mystérieuse, ce qui me donnait encore une illusion d'amour, entretenue aussi par la manière tendre dont je parlais de Gilberte et dont elle parlait de moi. « Vous savez qu'elle vous aime infiniment, » me disait Madame Swann. « Vraiment, vous ne voulez pas demain ?» Tout d'un coup, une allégresse me soulevait. Je venais de me dire... Mais après tout, pourquoi pas, puisque c'est sa mère elle-même qui me le propose. Mais aussitôt je retombai dans ma tristesse, je craignais qu'en me revoyant, Gilberte pensât que mon indifférence de ces derniers temps avait été simulée, et j'aimais mieux prolonger la séparation. Pendant ces apartés, Madame Montand se plaignait de l'ennui que lui causaient les femmes des hommes politiques, car elle affectait de trouver tout le monde assommant et ridicule, et d'être désolée de la position de son mari. Alors vous pouvez comme ça recevoir 50 femmes de médecins de suite, disait-elle à Madame Cottard, qui, elle, au contraire, était pleine de bienveillance pour chacun et de respect pour toutes les obligations. « Ah, vous avez de la vertu. Moi, au ministère, n'est-ce pas, je suis obligé, naturellement. Eh bien, c'est plus fort que moi. Vous savez, ces femmes de fonctionnaires, je ne peux pas m'empêcher de leur tirer la langue. Et ma nièce Albertine est comme moi. Vous ne savez pas ce qu'elle est effrontée, cette petite. La semaine dernière, il y avait à mon jour la femme du sous-secrétaire d'État aux finances, qui disait qu'elle ne s'y connaissait pas en cuisine. « Mais madame, lui a répondu ma nièce avec son plus gracieux sourire, vous devriez pourtant savoir ce que c'est, puisque votre père était marmiton. » Oh, j'aime beaucoup cette histoire. Je trouve cela esquis, disait madame Swann. Mais au moins pour les jours de consultation du docteur, vous devriez avoir un petit home avec vos fleurs, vos livres, les choses que vous aimez, conseillait-elle à madame Cottard. Comme ça, v'lan dans la figure, v'lan, elle ne lui a pas envoyé dire. Et elle ne m'avait prévenu de rien, cette petite masque. Elle est rusée comme un singe. Vous avez de la chance de pouvoir vous retenir. J'envie les gens qui savent déguiser leurs pensées. Mais je n'en ai pas besoin, madame, je ne suis pas si difficile, répondait avec douceur madame Cottard. D'abord, je n'y ai pas les mêmes droits que vous, ajoutait-elle d'une voix un peu plus forte qu'elle prenait afin de les souligner, chaque fois qu'elle glissait dans la conversation quelqu'une de ces amabilités délicates, de ces ingénieuses flatteries qui faisaient l'admiration et aidaient à la carrière de son mari. Et puis je fais avec plaisir tout ce qui peut être utile au professeur. Mais madame, il faut pouvoir. Probablement vous n'êtes pas nerveuse. Moi, quand je vois la femme du ministre de la guerre faire des grimaces, immédiatement, je me mets à l'imiter. C'est terrible d'avoir un tempérament comme ça. Ah oui, dit madame Cottard, j'ai entendu dire qu'elle avait des tics. Mon mari connaît aussi quelqu'un de très haut placé, et naturellement, quand ces messieurs causent entre eux... Mais tenez, madame, c'est encore comme le chef du protocole qui est bossu. C'est réglé, il n'est pas depuis 5 minutes chez moi que je vais toucher sa bosse. Mon mari dit que je le ferai révoquer. Eh bien, zut pour le ministère. Oui, zut pour le ministère. Je voulais faire mettre ça comme devise sur mon papier à lettres. Je suis sûr que je vous scandalise parce que vous êtes bonne. Moi, j'avoue que rien ne m'amuse comme les petites méchancetés. Sans cela, la vie serait bien monotone. Et elle continuait à parler tout le temps du ministère, comme si ça avait été l'Olympe. Pour changer la conversation, madame Swann se tournait vers madame Cottard. « Mais vous me semblez bien belle. Redfern Fessit ? Non, vous savez que je suis une fervente de Raunitz. » Du reste, c'est un retapage. Eh bien, cela a un chic. Combien croyez-vous ? Non, changez le premier chiffre. Comment, mais c'est pour rien, c'est donné. On m'avait dit 3 fois autant. Voilà comme on écrit l'histoire, concluait la femme du docteur. Et montrant à madame Swann un tour de cou dont celle-ci lui avait fait présent, « Regardez, Odette. Vous reconnaissez ? Dans l'entrebâillement d'une tenture, une tête se montrait, cérémonieusement déférente, feignant par plaisanterie, la peur de déranger. C'était Swann. Odette, le prince d'Agrigente, qui est avec moi dans mon cabinet, demande s'il pourrait venir vous présenter ses hommages. Que dois-je aller lui répondre ? Mais que je serais enchanté, disait Odette avec satisfaction, sans se départir d'un calme qui lui était d'autant plus facile qu'elle avait toujours, même comme cocotte, reçu des hommes élégants. Swann partait transmettre l'autorisation, et accompagné du prince, il revenait auprès de sa femme, à moins que dans l'intervalle ne fût entrée Madame Verdurin. Quand il avait épousé Odette, il lui avait demandé de ne plus fréquenter le petit clan. Il avait pour cela bien des raisons, et s'il n'en avait pas eu, l'eût fait tout de même, par obéissance à une loi d'ingratitude qui ne souffre pas d'exception et qui fait ressortir l'imprévoyance de tous les entremetteurs ou leur désintéressement. Il avait seulement permis qu'Odette échangeât avec Madame Verdurin deux visites par an. Ce qui semblait encore excessif à certains fidèles indignés de l'injure faite à la patronne, qui avait pendant tant d'années traité Odette, et même Swann, comme les enfants chéris de la maison. Car s'il contenait des faux frères qui lâchaient certains soirs, pour se rendre sans le dire à une invitation d'Odette, prêt dans le cas où il serait découvert à s'excuser sur la curiosité de rencontrer Bergotte, quoique la patronne prétendît qu'il ne fréquentait pas chez les Swann, était dépourvu de talent, et malgré cela, elle cherchait, suivant une expression qui lui était chère, à l'attirer. Le petit groupe avait aussi ses ultras. Et ceci, ignorant des convenances particulières qui détournent souvent les gens de l'attitude extrême qu'on aimerait à leur voir prendre pour ennuyer quelqu'un, aurait souhaité et n'avait pas obtenu que Madame Verdurin cessât toute relation avec Odette et lui ôta ainsi la satisfaction de dire en riant « Nous allons très rarement chez la patronne depuis le schisme ». C'était encore possible quand mon mari était garçon, mais pour un ménage, ce n'est pas toujours très facile. Monsieur Swann, pour vous dire la vérité, n'avale pas la mère Verdurin, et il n'apprécierait pas beaucoup que j'en fasse ma fréquentation habituelle. Et moi, fidèle épouse... Swann y accompagnait sa femme en soirée, mais évitait d'être là quand Madame Verdurin venait chez Odette en visite. Ainsi, si la patronne était dans le salon, le prince d'Agrigente entrait seul. Seul aussi, d'ailleurs, il était présenté par Odette, qui préférait que Madame Verdurin n'entendît pas de nom obscur, et voyant plus d'un visage inconnu d'elle, pût se croire au milieu de notabilités aristocratiques. Calcul qui réussissait si bien que le soir, Madame Verdurin disait avec dégoût à son mari « Charmant milieu, il y avait toute la fleur de la réaction. » Odette vivait à l'égard de Madame Verdurin dans une illusion inverse. Non que ce salon eût même seulement commencé à l'heure de devenir ce que nous le verrons être un jour. Madame Verdurin n'en était même pas encore à la période d'incubation où on suspend les grandes fêtes dans lesquelles les rares éléments brillants, récemment acquis, seraient noyés dans trop de tourbes et où on préfère attendre que le pouvoir générateur des dix justes qu'on a réussi à attirer en ait produit 70 fois 10. Comme Odette n'allait pas tarder à le faire, Madame Verdurin se proposait bien le monde comme objectif, mais ses zones d'attaque étaient encore si limitées et d'ailleurs si éloignées de celles par où Odette avait quelque chance d'arriver à un résultat identique, à percer, que celle-ci vivait dans la plus complète ignorance des plans stratégiques qu'élaborait la patronne. Et c'était de la meilleure foi du monde que quand on parlait à Odette de Madame Verdurin comme d'une snob, Odette se mettait à rire et disait « C'est tout le contraire, D'abord, elle n'en a pas les éléments, elle ne connaît personne. Ensuite, il faut lui rendre cette justice que cela lui plaît ainsi. Non, ce qu'elle aime, ce sont ses mercredis, les causeurs agréables. Et secrètement, elle enviait à Madame Verdurin, bien qu'elle ne désespérât pas d'avoir elle-même à une si grande école fini par les apprendre. César, auquel la patronne attachait une telle importance, bien qu'il ne fasse que nuancer l'inexistant, sculpter le vide, et soit à proprement parler, les arts du néant. L'art pour une maîtresse de maison de savoir réunir, de s'entendre à grouper, de mettre en valeur, de s'effacer, de servir de trait d'union. En tout cas, les amis de Madame Swann étaient impressionnés de voir chez elle une femme qu'on ne se représentait habituellement que dans son propre salon, entourée d'un cadre inséparable d'invités, de tout un petit groupe qu'on s'émerveillait de voir ainsi évoquée, résumée, resserrée, dans un seul fauteuil, sous les espèces de la patronne, devenue visiteuse, dans l'emmitouflement de son manteau fourré de grèbe, aussi duveteux que les blanches fourrures qui tapissaient ce salon, au sein duquel Madame Verdurin était elle-même un salon. Les femmes les plus timides voulaient se retirer par discrétion, et employant le pluriel, comme quand on veut faire comprendre aux autres qu'il est plus sage de ne pas trop fatiguer une convalescente qui se lève pour la première fois, disaient « Odette, nous allons vous laisser ». On enviait Madame Cottard, que la patronne appelait par son prénom. « Est-ce que je vous enlève ?» lui disait Madame Verdurin, qui ne pouvait supporter la pensée qu'une fidèle allait rester là au lieu de la suivre. « Mais Madame est assez aimable pour me ramener, » répondait Madame Cottard, ne voulant pas avoir l'air d'oublier, en faveur d'une personne plus célèbre, qu'elle avait accepté l'offre que Madame Bontemps lui avait faite de la ramener dans sa voiture à cocarde. « J'avoue que je suis particulièrement reconnaissante aux amis qui veulent bien me prendre avec elles dans leur véhicule. C'est une véritable aubaine pour moi qui n'ai pas d'automédon. » « D'autant plus, répondait la patronne, n'osant trop rien dire car elle connaissait un peu Madame Bontemps et venait de l'inviter à ses mercredis, que chez Madame de Crécy, vous n'êtes pas près de chez vous. Oh mon Dieu, je n'arriverai jamais à dire Madame Swann. » C'était une plaisanterie dans le petit clan pour des gens qui n'avaient pas beaucoup d'esprit de faire semblant de ne pas pouvoir s'habituer à dire Madame Swann. J'avais tellement l'habitude de dire Madame de Crécy, j'ai encore failli me tromper. Seule Madame Verdurin, quand elle parlait à Odette, ne faisait pas que faillir et se tromper exprès. Cela ne vous fait pas peur, Odette, d'habiter ce quartier perdu? Il me semble que je ne serai qu'à moitié tranquille le soir pour rentrer. Et puis c'est si humide, ça ne doit rien valoir pour l'eczéma de votre mari. Vous n'avez pas de rat au moins. Mais non, quelle horreur. Tant mieux, on m'avait dit cela. Je suis bien aise de savoir que ce n'est pas vrai parce que j'en ai une peur épouvantable et que je ne serai pas revenu chez vous. Au revoir, ma bonne chérie. À bientôt. Vous savez comme je suis heureuse de vous voir. Vous ne savez pas arranger les chrysanthèmes, disait-elle en s'en allant, tandis que Madame Swann se levait pour la reconduire. Ce sont des fleurs japonaises, il faut les disposer comme font les Japonais. Je ne suis pas de l'avis de Madame Verdurin, bien qu'en toute chose elle soit pour moi la loi et les prophètes. Il n'y a que vous, Odette, pour trouver des chrysanthèmes si belles, ou plutôt si beaux, puisqu'il paraît que c'est ainsi qu'on dit maintenant. Déclarait Madame Cottard quand la patronne avait refermé la porte. Chère Madame Verdurin n'est pas toujours très bienveillante pour les fleurs des autres, répondait doucement Madame Swann. Qui cultivez-vous, Odette? Demandait Madame Cottard pour ne pas laisser se prolonger les critiques à l'adresse de la patronne. Le maître? J'avoue que devant chez le maître, il y avait l'autre jour un grand arbuste rose qui m'a fait faire une folie. Mais par pudeur, elle se refusa à donner des renseignements plus précis sur le prix de l'arbuste et dit seulement que le professeur, qui n'avait pourtant pas la tête près du bonnet, avait tiré flamberge au vent et lui avait dit qu'elle ne savait pas la valeur de l'argent. « Non, non, je n'ai de fleuriste attitré que de Bac. »« Moi aussi, disait Madame Cottard, mais je confesse que je lui fais des infidélités avec la chaume. » « Ah, vous le trompez avec la chaume, je lui dirai, » répondait Odette qui s'efforçait d'avoir de l'esprit et de conduire la conversation chez elle, où elle se sentait plus à l'aise que dans le petit clan. « Du reste, la chaume devient vraiment trop chère. Ses prix sont excessifs, savez-vous. Ses prix, je les trouve inconvenants, » ajoutait-elle en riant.